Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now.
Bonjour tout le monde. Thank you for joining me for episode 3 of French Voices. My name is Jessica. I'm a passionate French teacher, and my goal is to help you improve your French listening skills by giving you the chance to listen to a real conversation between native speakers of French talking at normal speed, and to customize your learning experience through carefully designed sets of questions with two levels of difficulty. All interviews also come with the transcript and some specific vocab. The material for this episode are available for free at frenchvoicespodcast.com/episode3. For my recommendations on how to best use this podcast, I suggest you start with episode 0. Eric and his wife Christine are two very special people. They've been touring the world for 10 years, and they're still going. But they didn't buy a round-the-world plane ticket. Nope. They are cycling around the planet. From France, they went to Italy, Sicily, then Tunisia, crossed Libya, Egypt, Jordania, Syria, Turkey, Cyprus, Iran, the Emirates, the Sultanate of Oman, then India and the Darjeeling. They climbed the Himalaya in Nepal, Tibet and China. They crossed Mongolia, the freezing Russia and Siberia, Japan, South Korea, China again, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, and again China, Laos, and Thailand. Then they arrived in Malaysia, and they will slowly be making their way towards Australia. When I contacted Eric, it soon became obvious that it would be impossible to attempt to summarize such a journey in about 15 minutes. And we were feeling very frustrated. As a result, we decided to split our interview over 2 episodes. So today you will hear the first part of it. You may note that Eric and I address each other using the casual tu form, le tutoiement. Eric requested me to use this informal form of address as he dislikes the artificial social barrier created by the formal use of vous. That's the very laid-back, authentic type of person he is. And that's not a problem at all. Besides, we've become very good friends since we recorded the episode. Here are a few specific words to help you with your listening of this interview. Feel free to repeat them after me if you find this is helpful for you. A dashboard is un tableau de bord. Un tableau de bord. A compass. Une boussole, une boussole. Out of order, en panne, en panne. The maintenance, l'entretien, l'entretien. Let's listen to the interview now and stay tuned as I will teach you 2 more French expressions after this interview.
Eric, bonjour.
Bonjour Jessica.
Ça va bien?
Ah super, mais ça ira peut-être moins bien après tes questions.
Je précise que nous avons eu des problèmes avec la qualité du son et que Eric est dans une position très inconfortable parce que s'il bouge, nous avons des parasites, un bruit parasite qui intervient. Donc il a décidé d'être un héros et de parler dans une position vraiment abracadabrante.
C'est à peu près ça, je ne la décrirai pas.
D'accord. Alors, tu es en vacances en France actuellement, mais d'habitude, tu es sur les routes avec ta femme et vous faites le tour du monde à vélo depuis combien de temps ?
Depuis 10 ans. Nous sommes partis en septembre 2004 de France avec l'idée de ne voyager que 4 ou 5 ans Et puis, le virus nous est arrivé dans le nomadisme. Donc, on a quitté un peu le voyage pour continuer nomade. Et nous sommes sur les routes maintenant depuis 10 ans, 10 ans. Voilà.
Oui.
Et si nous
Et
sommes en... Excuse-moi,
oui.
juste pour dire que si nous sommes en vacances, nous avons abandonné nos vélos à Kuala Lumpur en Malaisie pour venir en Europe parce que ma fille vient d'avoir un bébé. Donc, c'était absolument important de venir voir ce bébé.
Wow. Et cette idée de tour du monde, comment vous l'avez eue à l'origine?
Alors j'ai toujours été voyageur avec une mentalité aventurière, c'est-à-dire que j'ai rarement pris des informations, des renseignements sur les pays dans lesquels je vais me promener. Malheureusement, j'ai toujours été frustré de faire des voyages comme tout le monde. Pendant la vie professionnelle, les voyages se résument à de courtes durées. Donc j'attendais que mes enfants soient grands, indépendants, pour pouvoir partir un peu plus longtemps. Voilà l'idée.
Et Christine, donc ta femme était dans le même état d'esprit que toi, ou il a fallu la convaincre?
Alors c'est déjà l'idée de ma femme. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi ma femme. C'est pas ma femme qui m'a suivi, c'est moi qui l'ai suivi. Elle a toujours rêvé aussi d'aventure, sans avoir eu l'occasion d'en faire. On a eu des vies avant. On s'est rencontrés il y a 17 ans et elle s'est rendue compte que, ben voilà, ensemble, on pourrait faire un projet pareil.
Et mais vous travailliez tous les deux avant de partir?
Et oui, comme tout le monde.
Donc comment est-ce que vous vous êtes organisé pour pouvoir tout lâcher et partir pour ce qui devait être à l'origine seulement 4 ou 5 ans?
Alors, c'est pas si difficile de lâcher quand en fait on attend ça depuis longtemps quelque part. Je crois que quand on a des enfants, on doit les assumer, donc on suit la filière logique. Et puis quand on se retrouve seul à un certain moment, sur les coups des 42, 45 ans, on se dit que ben voilà, on n'est pas trop vieux pour le faire. C'est peut-être le moment de démarrer quelque chose qui soit vraiment la vie qu'on aurait souhaité. Donc ça n'a pas été un lâchement, ça n'a pas été un tiraillement, tout le monde a compris qu'on allait partir. La société dans laquelle on travaillait a même proposé de nous subventionner, donc de nous financer, sponsoriser les 5 premières années. Donc tout le monde était content en fait qu'on fasse ce projet, comme si tout le monde aurait aimé peut-être être un peu à notre place.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir à vélo? Parce que pour faire le tour du monde, on peut peut-être imaginer que c'est plus facile, peut-être en camping-car par exemple, ou prendre un billet d'avion qui permet de s'arrêter à de multiples destinations. Le vélo, c'est un moyen de locomotion assez long, donc qu'est-ce qui vous a donné cette idée?
Alors justement, il y a moultes idées. La première, c'est que Christine et moi, on est à la base sportifs, c'est-à-dire que plus on souffre, plus on va se battre. Donc on n'est ni l'un ni l'autre des gens qui abandonnons. Donc quand on a traversé l'Himalaya, 6 000 mètres d'altitude, ou la Sibérie à moins 25, c'est là que les
Wow.
choses commencent à nous intéresser, en fait. Donc on a cette mentalité d'aventurier, on va de l'avant. Donc j'ai en même temps beaucoup de mal à parler du passé, même si c'est ce que vous allez me demander aujourd'hui. On va de l'avant. Donc ça c'est une raison, le sport. La seconde c'est que la planète est belle, on a franchement envie de la respecter sans en faire une folie écologique, mais il est nécessaire quand même aujourd'hui de faire un minimum attention. Donc on s'est dit ce sera à pied ou à vélo. À pied, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que on se perd. On peut aller n'importe où, tout droit dans les montagnes et ne jamais revenir. Donc c'est plus difficile. Ensuite, faut porter ses affaires. Donc on a souvent des bagages très lourds à pied. On se blesse le dos, on se blesse les genoux. On va très lentement. Donc ça limite. On va pas traverser à pied un désert de Libyen de 3 000 km à pied comme ça. Ça demande toute une organisation. Donc le vélo, c'était le bon compromis. On est assis, on est torse nu, on est sous le soleil. On peut se mettre la musique, on peut chanter, on est libre, libre de tout. Voilà. Donc c'était à l'évidence le vélo.
Et ces vélos qui sont vos montures et vos compagnons de voyage, est-ce que vous pouvez les décrire un petit peu?
Alors, ce ne sont plus des vélos, mais des camions. On dit des camions parce que j'ai toute ma vie, donc ma vie est sur mon vélo. Personne ne peut toucher à mon vélo, ça me fait trembler,
Ah
ça me fait
oui?
peur. Ah oui, à ce point-là, ouais. Rien que d'en parler d'ailleurs, ce vélo, c'est toute ma vie parce que on passe la journée dessus, on passe nos 8 heures dessus. Donc j'ai mon tableau de bord, sur mon tableau de bord, j'ai une boussole, j'ai mes cartes routières, j'ai deux haut-parleurs stéréo pour écouter ma musique.
Vraiment, ah,
J'ai
c'est un vélo technologique.
Alors c'est un vélo qu'on développe au fur et à mesure des besoins pour être bien tout le temps, quoi. Parce que mon vélo, c'est toute ma journée, donc ça doit être mon fauteuil sur une selle extrêmement confortable. Ça doit être des situations où je peux mettre tous les bagages que je veux. Donc j'ai 6 sacs qui font au total 50 kilos. Donc c'est exactement comme si tu t'assieds sur le porte-bagages de ton mari et que tu pars avec lui au Japon ou autour du monde. Voilà, j'ai 50 kilos de bagages et j'ai rajouté encore ma guitare, tout le nécessaire en fait au confort d'une vie journalière. Voilà.
Wow,
Voilà.
d'accord. Et ce vélo, il a un nom, alors, puisque tu es si proche de lui, est-ce que tu lui as donné un nom?
Eh bien non, je ne lui ai pas donné de nom. En fait, je n'en trouve pas. J'ai eu envie de l'appeler le yak parce qu'il est noir, il est terne, il n'est pas attirant, il est plutôt grossier, lourd, mastodonte comme ça. Mais en même temps, il grimpe l'Himalaya, il traverse les déserts, il va partout. Donc il est très puissant, il est fort, il est solide, il est jamais en panne depuis 10 ans, seulement de l'entretien. Et je l'ai pas appelé le yak parce que j'ai découvert qu'un autre cycliste avait appelé son vélo le yak.
Ah, c'est que vous avez vraiment tous la même idée, la même représentation de ce que ce vélo incarne alors dans la
Mais
tête pour lui donner le même nom comme ça.
pas seulement le vélo. Quand on part en voyage à vélo, on part en voyage, on part en vacances d'abord, on voyage ensuite, et pendant 3 ans, on est en voyage. Et soudainement, on ne sait pas pourquoi, mais moi j'ai mis 3 ans à verser dans la vie nomade. Christine a mis beaucoup moins longtemps. Christine peut dormir partout, n'importe où, n'importe comment, et elle est bien. Elle est chez elle. Moi j'ai mis 3 ans avant de m'endormir, à écouter tous les bruits, tout mon feeling, tout ce que je ressens, tout ce qui peut se passer, tous les animaux qui sont autour, avant de dormir profondément. Le nomadisme, tout d'un coup, tout à coup, tu culbutes dans un système où tu es bien partout. Donc tu n'as plus peur du tout, de rien. Tu es chez toi. Et à partir de là, c'est plus des voyages, c'est plus des vacances, il n'y a plus de programme. Il n'y a plus d'avenir, c'est vraiment le jour, la minute, minute. Et chaque regard qu'on croise, chaque gens qui nous invite, on en profite à fond. Pour moi, c'est ça le nomadisme. Voilà. Et tous
Donc
les
d'un tour
gens,
du monde, oui,
oui, et
pardon.
juste pour dire, pour finir ta question, tous les gens qui sont passés dans le nomadisme à vélo, donc, il faut un certain temps. À ce moment-là, on a effectivement tous exactement les mêmes feelings, les mêmes ressentis. On a des idées différentes sur les résultats de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit. On n'a pas les mêmes conclusions, mais on ressent les mêmes choses. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est que voyager longtemps nous met dans un système commun de nomadisme.
Donc au début, c'était des vacances et un tour du monde programmé, et puis c'est devenu un style de vie. Ça vous a transformé?
Ah, ça nous a totalement transformés, à tous les niveaux. À tous les niveaux, les préjugés qu'on peut avoir disparaissent, toutes les programmations disparaissent. En fait, tous les éléments sur lesquels on s'est appuyé toute notre vie disparaissent parce qu'on ne fait que rencontrer des événements qui nous disent, mais je pensais faux. Je pensais faux. Alors, ça peut être lié au lieu, à l'histoire, aux attitudes sociales, à la vie en général, mais on supprime toutes les programmations, il fait trop chaud là où on voulait aller, on doit partir dans les pays plus frais, on n'est pas accueilli comme on pensait l'être, ou des tas d'événements. Donc on est de plus en plus fragilisé, nos idées qui étaient solides, qu'on a développées pendant des années, en fait, se cassent la gueule gentiment, doucement, et on redevient beaucoup plus fragile et en même temps beaucoup plus sensible, plus émotif. Et ma femme et moi, on se sent assez fragile, en fait. Voilà.
Donc ce sont les idées reçues qui tombent en fait.
Oui, les idées reçues et puis toute notre manière de vivre, toute notre société nous apprend à programmer les rendez-vous, l'éducation des enfants, les écoles. On est dans un système obligatoire. On suit le fil. On croit même que ce sont nos pensées parce qu'on veut solidifier, on veut développer ses arguments quand on est en conversation. Donc on se forme, on lit les livres qui sont des livres d'Occident. Qui en Europe va lire des livres gambiens écrits par un gambien? Je veux dire, voilà. Donc on respire et on vit et on s'éduque dans un monde qui nous imprègne profondément et on finit même par être convaincu que c'est le seul monde possible, quoi, en définitive. Voilà.
Alors, tu as dit que tu avais mis quelque temps à 3 ans, en fait, à peut-être lâcher prise et te sentir chez toi partout. Est-ce que tu veux dire que tu te sentais peut-être en danger avant et que tu te sens en sécurité maintenant?
Alors, c'est très simple, Jessica. Je t'emmène à Naples. Il n'y a rien pour dormir. Donc, on bannit en général les hôtels puisqu'on est parti, on est passé par Naples et on se retrouve à dormir dans la banlieue de Naples au milieu des usines. Il est minuit, il fait noir nuit, il pleut et c'est d'un abominable glauque.
Oui.
Essaye de dormir dans cette situation. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a des voitures qui passent, des gens qui ont bu, voilà, etc. Et donc c'est effectivement, on nous apprend que les hommes quelque part sont méchants. Il y a des méchants partout. Enfin moi c'est ce qu'on m'a appris en Europe. Il faut faire attention à tout. Donc le voyage au départ, on cherche les collines, on va camper derrière, on cherche les montagnes, on est tout seul. On cherche les déserts, on est tout seul, on est bien. Mais en fait, après 3 années, quand on devient nomade, on se rend compte que toute cette attitude est fausse, elle a été gérée par notre éducation. L'homme est fait pour vivre ensemble. Et maintenant, aujourd'hui, on voyage au travers des hommes. On se cache plus, on s'arrête dans les villages, on demande où on peut monter la tente. Et depuis 10 ans, on est perpétuellement invité à dormir dans les jardins, à manger chez les gens, à dormir chez eux. On n'a eu affaire qu'à des gens extraordinaires, en fait. Et on n'a jamais été agressé, on n'a jamais eu de problème, rien du tout. Donc aujourd'hui, on passe notre vie avec les gens au lieu de passer notre vie à faire attention aux gens, en fait.
Vous avez rencontré sans doute des centaines de personnes alors qu'il est. Est-ce que tu as quelques rencontres qui ont été plus marquantes que les autres et que tu voudrais partager?
Oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup, beaucoup de... C'est des milliers, ce ne sont plus des centaines, ce sont des milliers en 10 ans. J'ai un carnet d'adresses, de milliers d'adresses. En partager un exemple, je suis en Chine, dans le Yunnan, dans une petite ville magnifique qui s'appelle Lijiang. Et là, je rencontre un blanc. Je dis un blanc parce qu'un occidental, et je lui parle d'un écrivain qui m'avait beaucoup marqué avant d'aller au Tibet, qui s'appelait Constantin de Slisevitch, et j'ai admiré ses livres, donc je lui ai écrit, et puis 3 mois plus tard, il a décodé, déchiffré, lu entièrement notre site internet, qui s'appelle www.baladeavelo.net. Et 3 mois plus tard, il nous a écrit des dizaines de pages, pratiquement un livre entier, avec une écriture magnifique, comme quoi il admirait le chemin qu'on avait pris pour arriver, d'après lui, à la vraie liberté. Et sachant qu'il habitait en Chine, je demande à ce blanc, je dis, tiens, je sais qu'un occidental vit en Chine, Constantin de Slisevitch, depuis des années, dans des petits peuples du Tibet. Et il me répond, j'étais avec lui hier soir, et je sais où il est, et je peux te donner son téléphone et son adresse. Voilà,
Ah,
donc,
c'est une sacrée coïncidence, ça.
nous avons rencontré cet écrivain. On est parti une semaine ensemble, campés sur les bases de l'Himalaya. C'était hyper émouvant. On a passé. Voilà. C'était super. C'était vraiment super.
C'est une très belle rencontre, effectivement. Ouais.
Oui, puis de fil en aiguille, il a une petite amie qui s'appelait Namu, qui est connue dans toute la Chine. Namu est une chanteuse qui avait toujours une grosse fleur rouge dans les cheveux. Elle venait de la tribu, de l'ethnie des Motsuo, donc l'ethnie des femmes qui dirigent tout, qui sont ethnie totalement matriarcale. Et quand je suis passé à 4000 mètres, très proche du lac Loubouhou, je suis allé voir par curiosité cette ethnie Motsuo et j'ai été complètement accueilli par Namu elle-même, qui est connue maintenant dans le monde entier, chez qui on a passé 3 semaines extraordinaires. Voilà, donc une autre rencontre merveilleuse.
Ces deux rencontres se sont faites en Chine.
Oui.
Et est-ce que tu as d'autres exemples, peut-être sur d'autres continents aussi?
J'ai des exemples sur tous les continents et dans tous les pays.
Est-ce que vous êtes déjà passé sur les 5 continents ou pas encore?
Pas encore, parce que comme notre vie nomade ne nous donne plus de directives, de plans, de suites, on n'arrête plus de faire des demi-tours, des cercles, des huit. Donc, après avoir descendu toute la Chine de Pékin au Vietnam, fait le tour du Cambodge, remonté le Laos, on est descendu par la Thaïlande. Et à mi-chemin en Thaïlande, on s'est dit, zut, nous n'avons pas visité le sud-centre de la Chine, région Yunnan, on doit remonter là-haut. Donc on a remonté au nord, on a refait une boucle de 7000 kilomètres juste pour aller voir une région qui nous attirait, en fait. Voilà.
C'est un sacré détour, et c'est là que vous avez fait cette belle rencontre avec l'écrivain?
Exactement, exactement.
Ouais.
Oui,
C'est un
donc,
signe.
exactement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a absolument pas de hasard. Une jeune
Alors,
fille,
oui.
une petite chose, une jeune fille hier m'a envoyé un email, une Norvégienne, qui nous a rencontrés, Christine et moi, au bord du lac Baïkal, il
Oui.
y a quelques années. Et je ne me souviens absolument pas d'elle. Elle nous a juste vu passer à vélo. Elle nous a demandé nos noms. Donc, c'était pas suffisamment long pour s'en souvenir. Elle m'envoie un mail hier pour me dire, c'est incroyable. Je suis allée, Norvégienne, je suis allée à Paris visiter une amie. Nous avons parlé voyage à vélo et j'ai parlé de vous. Et la Parisienne, cette amie, s'est levée d'un bond en disant, Éric et Christine, mais je les ai rencontrés en 2007 à Chypre.
Oh.
Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a des tas de rencontres qui ont entre elles un lien, lequel je ne sais pas. Est-ce que ce sont les gens qui voyagent dans les mêmes lieux, qui ont le même style de voyage? Mais en tout cas, j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça, de gens qu'on revoit, qu'on recroise, qui ont une histoire indirecte avec nous. Des gens avec qui on discute la journée entière en Corée du Sud, et à la fin de la journée, le gars se lève au bout d'une journée et me dit, mais c'est hallucinant, j'ai lu toute votre histoire sur Internet, Eric et Christine, c'est vous qui avez fait telle chose, et je dis oui, c'est nous, et le gars hallucine, quoi. Et sans arrêt, on a des connexions comme ça. Voilà. Ce qui nous ajoute, et ce qui nous aide à dire que le monde est vraiment plus petit que ce qu'on pense.
Oui, j'allais vous demander donc quelle était votre position à tous les deux. Est-ce que le monde est petit ou le monde est immensément grand?
Le monde est
Peut-être les
petit.
deux.
Le
Le monde
monde
est petit.
est petit. Le monde est infiniment petit. C'est impressionnant. Là, nous sommes en Malaisie avec nos vélos. On descend en Australie. On se pose aucune question. C'est vraiment à côté. Voilà, en un mois, si on voulait pédaler tous les jours, en un mois, on y serait. Quand on est à Paris, en 60 jours, on est au Japon à vélo. C'est tout petit. Et cette notion de distance, ce sont plus les téléphones, les médias, Internet et les avions qui, au travers des fils comme ça, au travers de l'espace, De 8 heures d'avion, on a le sentiment d'aller très loin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va pas si loin. Voilà. Donc avec Christine, on compte environ 1 heure d'avion égale 10 jours de vélo. Donc on compte en heures d'avion quand on veut se déplacer.
Donc finalement, Paris-Melbourne, 24 heures d'avion, c'est seulement 240 jours de vélo.
Exactement. Exactement. C'est
Wow.
6 fois, oui, c'est 6, 7 mois de vacances, voilà, de vacances et de beauté. C'est 7 mois qui seraient inoubliables par rapport à 24 heures d'avion.
Oui, parce que vous voyez tous les paysages qui sont entre le point A et le point B et rencontrer les personnes en même temps.
Exactement.
Wow, wasn't that fascinating and full of wisdom? I'm really looking forward to sharing with you the second part of Eric and Christine's journey in the next episode. That episode will take you through some very rough, emotional, and even dangerous times of Eric and Christine's journey, so be sure to come back. And how did you go with your French? Eric has been using a few slang expressions and colloquial language. Most of them are explained in the transcript, so don't you worry. As I promised, I also wanted to present you two additional French expressions. I thought they were relevant to the context of this episode. The first one is Qui veut voyager loin ménage sa monture. Qui veut voyager loin ménage sa monture. I found that the equivalent is Slow and steady wins the race. I think there's actually a bit more to that. Because that also tells us that we need to look after our vehicle or means of transportation, take good care of it if we want to travel far. For example, it can be about your own feet if you want to go through a long hike. Qui veut voyager loin ménage sa monture means that you should be wearing appropriate footwear, socks, and maybe have some bandage with you. Because if you are injured, then you can't travel far anymore. You have to stop. The second expression that illustrates very well what Eric was saying is le voyage est plus important que la destination. Le voyage est plus important que la destination means that the journey matters more than the destination itself. You can find these expressions in the show notes of this episode. Simply go to frenchvoicespodcast.com/episode3. Don't forget to test your French comprehension with the two-level practice questions I've designed especially for you, with a lot of love and care. If you enjoyed listening to this episode and the learning materials, I invite you to leave a review and send me a screenshot of this review to feedback at frenchvoicespodcast.com. This will put you in the draw to win a free online French lesson with me. The winner will be announced in the first episode of the new year. Thanks a lot, à bientôt!